Notre société est telle que l'horizon du système scolaire se borne à des classements, mais le véritable objectif devrait être en permanence de progresser, d'être meilleur que soi-même et non meilleur que les autres. Albert Jacquard, 23 décembre 1925, 11 septembre 2013, est un scientifique et essayiste français. Spécialiste de génétique des populations, il a été directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques et membre du Comité consultatif national d'éthique. Notre devise, tous ensemble pour les réussites, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 30 mars 2024 sous un temps torride. Bienvenue sur Radio Valois-Mulsien dans l'émission Pédago Rando, animée par l'association Projet Action 60 en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Notre thème du jour, la parentalité. Pour cela, nous recevons Sophie Abraham.
Non, ce n'est pas la parentalité. C'est les nouveautés du côté du ministère de l'Éducation nationale. C'est moi qui me suis trompée encore. Voilà, c'est un copier-coller.
Et voilà.
C'est toujours la même qui se trompe.
Donc, nos invités ne sont pas les bons.
On aurait pu parler.
Donc, je reprends. Sophie Abraham, professeure des écoles et déléguée du syndicat enseignant SFU SNUP IPP, secteur de Crépy-en-Valois. Nabi Douja, professeure de collège et déléguée du syndicat enseignant FSU SNES. Et Johan Vandenbroek, professeur en collège que nous aurons au téléphone.
Et au lycée.
Alors, Sylvie, peux-tu nous présenter le thème du mois ? Mais avant, on aimerait bien avoir la signification de SFU SNUP IPP.
Pas facile à dire. FSU SNUPP, ben en fait, le SNUPP, c'est le syndicat des enseignants du premier degré qui fait partie d'une fédération de syndicats qui est la Fédération syndicale unitaire. Donc SNUIPP, c'est Syndicat national unitaire des instituteurs, institutrices, professeurs des écoles et PEGC.
C'est quoi PEGC ?
Alors, c'est les professeurs d'enseignement général au collège, mais c'est un corps qui est en voie d'extinction. C'était des professeurs bivalents en collège et il n'y en a pratiquement plus.
Ah ben je ne connaissais pas.
Non, moi non plus.
Je ne savais pas.
Et le SNES ?
Et le SNES, c'est le Syndicat national des enseignements du second degré, donc qui est lui aussi affilié à la Fédération syndicale unitaire. Et nous, on représente tous les personnels enseignants et éducatifs, psychologues de l'éducation nationale, accompagnants des élèves en situation de handicap, et CPE.
Et CPE ?
Conseillers principaux d'éducation.
D'éducation, hein, voilà, d'accord. Bon, je vais commencer. Donc, une nouvelle ministre à bord du gigantesque paquebot du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Madame Nicole Belloubet. A-t-elle la parole libre pour réformer au mieux notre école ? Entre les injonctions de Monsieur Emmanuel Macron puis ceux de Monsieur Gabriel Attal, qui est toujours présent sur le terrain, éclipsant ainsi Madame Belloubet, qui fait quoi ? Est-ce un rôle fictif donné à Madame Belloubet ? Pour en parler, on va attendre un petit peu, on va écouter le billet d'humour de Gérard.
Eh bien, je vais dire que tu as raison, Sylvie. L'éducation nationale, c'est un immense paquebot qui navigue avec des perpétuellement changements de capitaine sur un océan de réformes et de problèmes sans cap précis, pourvu que la destination finale ne soit pas Baltimore.
Espérons que ce ne soit pas le Titanic non plus. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter sur notre paquebot ? Bienvenue à bord. Donc, ayant un parcours institutionnel, Madame Belloubet n'est-elle pas la plus à même de prendre des résolutions indispensables pour améliorer sur le terrain les enjeux de demain ? Son profil de professeur des universités où elle a enseigné le droit avant de devenir rectrice de l'Académie de Limoges de 1997 à 2000, puis rectrice à Toulouse, 2000 à 2005, lui confère quand même des connaissances sur le monde éducatif. Elle démissionne de ce dernier poste pour protester contre les décisions du gouvernement à l'époque de Jean-Pierre Raffarin de diminuer le nombre d'enseignants et de supprimer les travaux personnels encadrés TPE. Alors les TPE, c'était une épreuve anticipée du bac, hein, souvent travaillée en groupe, on est d'accord, qui n'était pas comptabilisée si la note était en dessous de la moyenne. Madame Belloubet sera-t-elle gardé ses convictions malgré les pressions de toutes parts, plus axée sur les idées de gauche? Elle préconisait l'autonomie et le droit à l'erreur dans l'apprentissage de nos enfants. Une telle cacophonie entre plusieurs membres du gouvernement laisse parents enseignants dans une perceptible appréhension pour la prochaine rentrée en septembre 2024. Et le 19 mars, il y a eu une grève des fonctionnaires de l'éducation nationale qui a montré une mobilisation qui était plus suivie par les professeurs des collèges. Il y a eu plus de 14%. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a étonnée, en Seine-Saint-Denis, il y a eu 53% de professeurs des collèges donc, qui ont fait grève. Et depuis un mois, ces enseignants manifestent pour demander un plan d'urgence pour leurs écoles ayant une concentration de difficultés sociales. Avez-vous l'impression que ces contestations mènent à un dialogue ou, sinon, à une fin de non-recevoir? Parce qu'on a beau voir, hein, il y a toujours des manifestations, ils ont l'impression que rien ne bouge.
Alors, peut-être pour commencer, enfin moi, ce que je voulais préciser par rapport à ce qui a été dit, c'est que la mobilisation, elle n'a pas commencé le 19 mars. Oui, depuis voilà. La rentrée, les personnels sont mobilisés. Et en particulier, nous, dans le premier degré, on a conduit, avec mon organisation syndicale, une enquête qui s'appelle « J'alerte » sur les conditions de travail, parce qu'on constate que les réformes successives ont quand même passablement dégradé la situation des personnels sur le terrain. Et donc, on a tiré la sonnette d'alarme bien avant le 19 mars. Et il y a eu une forte mobilisation le 1er février dernier, avec une action de grève qui concernait les personnels de l'enseignement, premier comme second degré, où on a quand même eu plus de 40% des professeurs des écoles qui étaient mobilisés, et je crois que c'était même un peu plus au niveau du collège. Donc la sonnette d'alarme, elle est tirée depuis déjà un petit moment. Effectivement, on tire la sonnette d'alarme, et là, maintenant, ce qu'on attend, c'est d'avoir des réponses effectives à tous les problèmes qu'on pose.
D'accord. Mais vous avez l'impression quand même d'être écouté quelque part ou pas du tout ?
Alors pour nous au SNES, non, on n'a pas l'impression d'être écouté.
Il faudrait que tu parles un petit peu plus fort, je crois.
Un petit peu plus fort. Donc nous au SNES, je disais qu'on n'a pas l'impression d'être écouté, parce que non seulement la mobilisation, elle est un petit peu de longue date, comme dit ma camarade Sophie, mais elle est générale, c'est-à-dire que c'est pas corporatiste au sein des enseignants qui s'opposent à cette réforme, c'est aussi les personnels de direction, ce qui est extrêmement rare, qui se prononcent sur une réforme comme ça. Leur syndicat principal a écrit une lettre au ministère au début de l'année civile 2024. Certains personnels aussi des corps d'inspection se sont mobilisés dans certains départements, dans le 44 en particulier, et les fédérations de parents sont elles aussi contre ce projet. Donc depuis quelques mois, il y a des discussions. Le fait qu'il y ait eu des changements de ministre n'a pas simplifié la tâche, mais c'est pas une excuse pour que toutes les revendications qui ont été exprimées n'aient pas été entendues. Et j'irai même plus loin, c'est même un petit peu pire que ça, puisque les quelques propositions qui ont été faites de manière constructive pour empêcher la réforme d'être vraiment catastrophique, au lieu d'être entendues, elles ont été spécifiquement notées dans le décret qu'elles seraient interdites. Donc je vous donne un exemple, les groupes de niveau sont censés être pour l'ensemble du volume horaire en français et en maths en 6e et en 5e. Ça pose un gros problème pour les professeurs principaux, parce que ça signifierait que des professeurs principaux seraient professeurs principaux d'élèves qu'ils ne connaissent pas. Donc nous, ce qu'on avait demandé, c'est tout simplement de réserver une partie de l'horaire en classe entière et la plus grosse partie en groupe. On nous a dit « vous inquiétez pas, si c'est pas écrit que c'est interdit dans le texte, vous pourrez le faire ». Et le 17 mars, qu'est-ce qu'on voit écrit dans le texte spécifiquement ? Il sera possible de faire des cours en classe entière, mais par période. En aucun cas, ça ne pourra être une répartition hebdomadaire. Et pour terminer la provocation, ils écrivent juste en dessous « et les professeurs principaux, les professeurs de mathématiques et de français pourront être professeurs principaux, point ». Donc nous, on n'appelle pas ça du tout être entendu. Et comme disait ma collègue, il serait peut-être temps que enfin, il y ait des mesures qui soient dans l'intérêt général, qui soient prises, et en cohérence avec l'avis des personnels qui sont sur le terrain.
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé hein, de ces groupes de niveau, on va y revenir plus tard. J'aurais voulu poser la question, Johan, est-ce que tu nous entends ?
Est-ce que tu veux
rajouter quelque chose
Pour l'instant, j'ai pas énormément à rajouter hein, par rapport à ce que les collègues ont dit, et notamment le monsieur, alors j'ai plus le nom là sous les yeux, mais juste avant moi, effectivement, ces groupes de niveau, de toute façon. Je suis aussi adhérent au SNES, donc du coup, effectivement, ces groupes de niveau sont une très mauvaise chose. On en a parlé aussi avec des collègues donc au sein de mon collège pour plusieurs raisons. Et puis au-delà de tout ça, on en reparlera après sans doute, mais au-delà de tout ça, quelles réactions vont avoir aussi les élèves, les parents, et puis qui va s'occuper de quel groupe, enfin, ça risque d'être extrêmement compliqué à mettre en place sur le terrain.
Tout à fait. Gérard.
Mais j'aurais deux petites questions à poser. Vous êtes professeur de quelle classe?
Alors, moi, je suis professeur de 6e, 5e et 4e.
En quelle matière ?
En mathématiques.
Mathématiques et ?
Moi, je suis professeur des écoles dans le premier degré, en maternelle.
D'accord. Et la deuxième question que je voulais poser, est-ce qu'il n'y a pas un grand barrage par rapport au rectorat ? Par rapport à toutes les revendications qui remontent, est-ce que le rectorat ne fait pas un... Vous voyez ce que je veux dire ? Un barrage ?
Un blocage, tu penses ?
Alors... Moi, je pense pas qu'il y ait un blocage en tant que tel. Hein. Quand on est mobilisé, en règle générale, on demande à être reçu à différents niveaux. Ça peut être au niveau des DSDEN, hein, puisque sur la gestion du premier degré, c'est départementalisé. Hein. On s'adresse pas directement au rectorat. Dans le second degré, c'est plus le rectorat. Après, nous, on fait remonter des choses à chaque mobilisation. En général, on demande une audience. On nous écoute bien gentiment. Hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On nous reçoit, on est courtois, on écoute tout ce qu'on a à dire sur la situation sur le terrain. Mais après, c'est dans quelle mesure c'est remonté au ministère ? Ça, moi, j'en sais rien. Et puis, par ailleurs, la prise en compte réelle de ce que le terrain fait remonter, j'ai quelques doutes. Il y a la succession des ministres qui n'aide effectivement pas. Mais bon, de toute façon, le cap, hein, puisqu'on tout à l'heure, on parlait de cap du paquebot, il est fixé. Il y a une feuille de route. Et la feuille de route, aujourd'hui, elle est dans les mains de M. Macron et de M. Attal. La ministre qui est en poste aujourd'hui, elle n'a pas les coudées franches, hein. Mais le cap, il est fixé. Et le cap, c'est la dégradation de l'école publique et du service public d'éducation. Moi, je tenais quand même à dire que, bon, là, on est entré sur un angle bien spécifique, la question du choc des savoirs et des groupes de niveau. Mais la revendication qui est portée actuellement par l'ensemble des personnels sur le terrain, elle ne porte pas que sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a parlé de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est un endroit qui concentre toutes les difficultés liées aux moyens, liées au bâti scolaire, et l'agrégation de toutes ces difficultés fait qu'aujourd'hui, ce département-là, il est un peu à la pointe de la mobilisation. Mais ces difficultés-là, on les retrouve partout, peut-être pas à la même mesure qu'en Seine-Saint-Denis, mais en tout cas, nous, ce qui remonte du terrain, c'est que l'accumulation des difficultés ces dernières années, en termes de moyens humains, de financement de l'école publique, mais aussi de dégradation des conditions de travail et de gestion des personnels, fait que là, il y a quand même un ras-le-bol généralisé qui s'est installé. Alors, qui se cristallise autour d'une réforme, la réforme du choc des savoirs, mais ça dépasse quand même largement cette problématique-là.
Tout à fait. Alors, au vu de la baisse des résultats de PISA, épreuve qui évalue donc les acquis des jeunes de 15 ans, le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'améliorer le projet éducatif. Moi, j'ai juste une question quand même à poser sur ce fameux PISA. Faut-il vraiment se fier aux résultats PISA ? Est-ce un indice fiable ? Les données sont-elles équivalentes d'un pays à un autre ? Souvent, on entend dire que PISA, c'est vraiment axé pour l'Asie, pour la Chine, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'on arrive quand même à voir la Finlande et la Suède quand même avec des niveaux bien meilleurs que nous. Nous, on arrive quand même, je crois, c'est à la 26e place hein, entre l'Allemagne et l'Espagne. Voilà. Est-ce qu'on peut se fier à ces évaluations ou pas ?
Alors pour nous, effectivement, les tests PISA, c'est un indicateur du niveau scolaire, on le nie pas. Maintenant, ce qu'on regrette, c'est son instrumentalisation pour faire passer ce genre de réforme. Vous dites qu'il y a eu une baisse des résultats, c'est vrai, par rapport au précédent test en 2018.
Mais elle n'est pas catastrophique, ça faut bien le signaler. Hein.
Déjà, effectivement, elle n'est pas catastrophique, et elle est générale dans la quasi-totalité des pays qui sont soumis à cette évaluation. Donc nous, notre explication principale, c'est les années Covid, où quasiment tous les pays ont subi des confinements scolaires qui ont dégradé les conditions d'enseignement. Même si on nous a dit au bout de 6 mois que le télétravail avait résorbé les difficultés, ça évidemment c'est un mensonge. Donc on n'est pas plus mal loti que les autres à ce niveau-là. Après c'est vrai que les pays d'Asie ont des scores bien meilleurs que nous.
On dit souvent justement que ces évaluations, les indicateurs mettent plus en valeur les pays d'Asie. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Souvent, c'est ce qu'on entend dire hein, quand même.
Quand vous dites mettre en valeur, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les évaluations sont plus faites, en fin de compte, pour que les pays d'Asie aient une meilleure notation.
Alors, je ne sais pas si c'est les évaluations qui sont faites pour les mettre en valeur ou si c'est eux qui s'adaptent à l'évaluation pour la préparer mieux que nous. Nous, on dénonce un petit peu aussi cette obsession de l'évaluation qui de temps en temps d'ailleurs ne sert absolument pas les élèves, mais vise plutôt à évaluer les enseignants, les pratiques des enseignants, voire les établissements pour des classements qui n'ont absolument aucune pertinence. Notre objectif, c'est pas d'avoir des bons scores à PISA, juste pour faire plaisir au ministère qui met en place ça. Notre objectif, c'est de transmettre des connaissances et des compétences aux élèves. Si elles correspondent pas aux questions qui sont posées dans PISA, effectivement, on continuera à avoir des scores moindres par rapport aux pays asiatiques, mais je pense pas qu'on doive se fixer sur la boussole de PISA pour gérer l'ensemble des programmes et des méthodes pédagogique qu'on a envie de mettre en place dans notre société.
Johan, tu as quelque chose à rajouter ? Toi qui es en collège et lycée ?
Par rapport au classement PISA, j'ai assez peu de choses à ajouter aussi. Donc du coup là-dessus, je laisse mon collègue te dire en fait. Donc du coup, j'ai pas plus que ça à rajouter.
Ok. Alors, on a beaucoup médiatisé hein, sur le sujet, comme le disait tout à l'heure Naïb, des groupes de niveau ou groupes de besoins mis en place pour les 6e et 5e en septembre 2024, puis les 4e et 3e en septembre 2025. Ils auront aussi ces fameux groupes exclusivement pour les cours de mathématiques et de français. Au vu des contestations, on parle dorénavant de choc des savoirs, une nouvelle ambition pour le collège. C'est comme ça qu'on a appelé hein, le choc des savoirs, une nouvelle ambition pour le collège. À l'article 4.1, l'arrêté ne précise pas le nombre de groupes ni le nombre d'élèves par groupe. Les cours en classe complète seront-ils encore une priorité ? Qu'en pensez-vous ? Et quels seront les bénéfices et les inconvénients de cette nouvelle méthode ?
On peut laisser Johan.
Johan, tu veux répondre ?
Oui, je viens. Donc, par rapport à ces groupes, il y a une des phrases qui a été dite. Hein, l'arrêté ne précise pas le nombre de groupes ou le nombre d'élèves par groupe. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que, déjà, on va créer de la stigmatisation entre les élèves. Ça va être un premier problème. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, j'ai lu ça, il y a déjà des établissements privés hein, qui essaient d'avoir des dérogations par rapport à la réforme. Donc on va encore créer des différences entre le privé et le public. Donc par rapport à ça, et puis au-delà de ça, ça va créer une discrimination entre les élèves eux-mêmes, puisque les élèves ne sont pas idiots non plus, ne sont pas dupes. Selon les groupes dans lesquels ils vont être placés, il va y avoir le regard de leurs camarades sur leur propre niveau scolaire. Donc ça crée une stigmatisation entre les élèves. Entre les parents, dans un premier temps, pourraient prendre la mesure en disant très bien, on va faire des groupes de niveau, ça va être une bonne nouvelle, jusqu'au moment où leur enfant va se retrouver dans un groupe de niveau qui n'est pas le groupe escompté par les parents. Donc ça va encore créer une tension par rapport à ça. Et puis, on ne dit pas combien d'élèves dans ces groupes. Ça veut dire qu'on aura peut-être des groupes, effectivement, les thèmes les plus faibles avec un nombre d'élèves moins important, mais quid des autres élèves? Est-ce qu'on fait des très gros groupes, du coup, au-delà des seuils déjà au collège qui sont de plus en plus élevés? Est-ce qu'on fait de très gros groupes donc pour les autres élèves plus à l'aise avec le français ou les mathématiques? Enfin, qu'est-ce qui va en être? Et puis, quels enseignants vont être mis en face des élèves? Enfin, ça crée vraiment, vraiment toute une série de problèmes. Donc, ces groupes de niveau, c'est clairement la fausse bonne idée donnée par le gouvernement. L'idée, je pense, c'est davantage de la communication, puisque c'est on va faire quelque chose, regardez, on fait quelque chose, on change les choses, mais sur le terrain, ça paraît assez largement inapplicable, ou du moins très difficilement applicable. Tant ça va créer des tensions par rapport aux parents, par rapport aux élèves, par rapport aux collègues. Et concrètement, dans mon collège, en tous les cas, on a eu une réunion dessus il y a quelques semaines. Le collègue disait, mais comment on va mettre ça en place? Comment ça va être mis en place? Et la direction, pour le coup, et donc ça rejoint ce que disait tout à l'heure mon collègue, la direction, pareil, était totalement désemparée par rapport à ça. Donc on avance, on navigue à vue. Sur quelque chose qui paraît très, très complexe à mettre en place et relativement discriminant, voire très discriminant très pour les élèves qui vont se retrouver dans les groupes de niveau les
plus bas. Attends, Sophie.
Est-ce que ça ne va pas défavoriser certains élèves qui, pensant être dans le groupe supérieur, vont se retrouver dans un groupe inférieur et avec un certain relâchement pour la matière?
Oui.
Il y a aussi le côté, effectivement, les enfants vont se dire « bon ok, je suis dans ce groupe-là, donc je vais me relâcher ». Alors que l'effet classe, hein, le groupe classe, permet du coup d'avoir des élèves de tout niveau.
Tout niveau.
Alors, malheureusement, ce qu'il aurait fallu faire, peut-être, ce qui aurait été bien de faire, c'est de réduire encore les effectifs par classe, mais ça, ils n'en prennent pas le chemin. Généralement, on est plutôt vers la hausse, que ce soit au collège ou au lycée. Si je dis pas de bêtises, le collège c'est 30 aujourd'hui au maximum, au lycée c'est 35, j'ai même eu des classes à 36. L'idée ce serait de réduire le nombre d'élèves par classe, mais là tu as des groupes de niveau avec un groupe entre guillemets dit faible, avec des élèves peu nombreux, avec un nombre d'élèves un peu important. Par répercussion, ça va aussi engendrer des groupes très importants avec des élèves qui ont plus de facilité, mais des groupes très importants également d'un autre côté. Donc du coup, ça paraît très compliqué à mettre en place. Et puis effectivement, les élèves qui vont se retrouver dans les groupes plutôt faibles risquent d'être dégoûtés par les matières concernées.
Sophie, tu voulais réagir?
Oui, je voulais réagir parce que nous, les groupes de niveau dans le premier degré, on a déjà expérimenté. Hein, on a un dispositif qui s'appelle les activités pédagogiques complémentaires et on prend sur des temps périphériques au temps scolaire, des groupes de niveau, des enfants, en l'occurrence des enfants en difficulté. Et ce qu'on constate, c'est que, un, ça conduit à une stigmatisation des élèves. Ils sont quand même pointés comme étant des élèves en difficulté par rapport aux autres élèves. En plus, ils sont pris en charge à la périphérie de l'école, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Et ce qu'on constate, c'est que la prise en charge de ces élèves dans des groupes de niveau ne permet pas un réinvestissement dans les temps collectifs, au niveau des apprentissages. Il n'y a pas d'effet positif, réellement positif et significatif, à la mise en place de ces groupes de niveau. Donc leur généralisation à l'échelle du second degré, pour nous, elle va poser un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que par rapport au fait, effectivement, que les élèves vont être stigmatisés, mis dans des groupes complètement hermétiques et avec une perspective quand même pour les enfants les plus en difficulté qui est quand même pas très positive.
Et les faire travailler par îlot.
Ça, c'est un fonctionnement qui peut être pratiqué en classe entière. De toute façon, ça dépend plus ou moins des objectifs de la séance ou des disciplines enseignées. C'est quelque chose qui se répand de plus en plus, mais c'est plus une modalité qu'une mesure, je dirais, appliquée à tous les élèves de tri. En fait, social. Donc les îlots, c'est un autre débat. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Ça peut être déjà utilisé par les enseignants qui souhaitent le mettre en place. Donc ça ne nous pose pas de soucis. Par rapport au groupe en tant que tel, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Je pointerai quelques inquiétudes supplémentaires. Le principe même de maintenir ces groupes sur l'ensemble de la scolarité des élèves, nous, ça nous pose question. C'est-à-dire que si le groupe à effectif réduit pour les élèves qui ont le plus de besoins est fait pour les remettre entre guillemets à niveau pour qu'ils puissent réintégrer la classe entière, ça devrait être mis par exemple qu'au premier trimestre. C'est efficace et hop, au deuxième trimestre, on fait cours en classe entière. Ou alors, ça devrait être mis en sixième, et admettons cinquième, et après en quatrième, troisième, tout le monde continue. À partir du moment où ils considèrent que ce sera, entre guillemets, à vie des groupes d'élèves à besoin, ça veut dire qu'eux-mêmes reconnaissent qu'en fait leur système ne sera pas efficace. Et ça renforce l'idée de tri dont je viens de parler. Et sur le texte, il est écrit clairement qu'un des objectifs de ces groupes, c'est de permettre de cultiver l'excellence des élèves les plus à l'aise. Alors qu'à aucun moment dans le texte, il est écrit que l'objectif principal est de permettre à tous les élèves les plus en difficulté d'avoir les mêmes chances de réussite que les autres. Donc en fait, nous, on se pose vraiment question sur l'objectif réel de ces groupes de niveau. Est-ce que vraiment c'est fait pour aider les élèves en difficulté ou est-ce que c'est au contraire pour les évincer du groupe classe volontairement pour permettre à ceux qui ont déjà un bon niveau de faire leur scolarité sans être ralentis, entre guillemets, par les autres. Et ça, ce serait, si c'était avéré, ce serait vraiment inacceptable.
Je voulais te poser une question sur tes groupes de niveau, Sophie. Ça se passe pendant les horaires scolaires ou en dehors de la classe ?
C'est à la périphérie du temps de classe et voilà. Ça concerne les élèves qui rencontrent des difficultés dites passagères. Donc ça, c'est un dispositif qui a été mis en place il y a déjà un petit moment. Hein, c'est pas nouveau. C'est des groupes qui sont ponctuellement constitués, qui doivent être dans une durée limitée, et ça se passe sur le temps de midi ou après la classe.
D'accord. Donc en fin de compte, il y a encore de la fatigabilité supplémentaire pour ces enfants qui sont en difficulté.
Mmh. Bah alors nous, c'est encore une autre problématique, parce qu'effectivement, c'est en dehors du temps de classe. Après, moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que ce qu'on constate sur le système éducatif actuel, c'est qu'il est quand même un facteur d'inégalité croissante entre les élèves les plus performants, ceux qui réussissent le mieux scolairement parlant, et les élèves les plus en difficulté. Et là, ce qui est prévu en termes de mise en place va accroître, plutôt que de résoudre la problématique, va encore accroître ces écarts. Et je pense que par ailleurs, les groupes de niveau, c'est défavorable aussi bien pour les élèves les plus faibles que pour les élèves les plus performants. En fait, l'entre-soi, l'absence d'hétérogénéité entre les élèves, n'est pas un facteur de réussite. C'est certainement pas un facteur de réussite pour les élèves les plus en difficulté, qui se retrouvent avec des élèves de même niveau, donc ils n'ont pas l'émulation du groupe hétérogène. Mais je ne suis pas sûre que ce soit, par ailleurs, aussi favorable que ça aux élèves les plus performants. Parce que les élèves les plus performants, quand ils sont dans un groupe hétérogène, ils ont aussi une forme de responsabilité d'entraîner une dynamique de groupe au niveau des apprentissages. Donc, moi, je suis quand même très réservée sur le fait que ça avantage, par ailleurs, les élèves les plus performants. Il faut regarder aussi ce qui se passe au niveau des dynamiques de classe et au niveau des dynamiques de groupe-classe. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on pense, dans le premier degré, c'est que ce qui permet de faire avancer tous les élèves, quel que soit leur niveau, c'est justement ce travail en commun, en groupe, et qui permet d'ajuster les groupes entre eux.
Puis souvent, il y a une entraide entre eux aussi, souvent.
Et ça, c'est un facteur important dans la construction des dynamiques d'apprentissage.
Donc la chance pour tous sera-t-elle encore une priorité ou allons-nous vers un classement qui pourrait changer la norme d'un collège pour tous ? Pouvons-nous penser à un tri dès l'entrée en sixième ? Et dans tout cela, vont-nous penser aux élèves de 10-11 ans qui vont donc arriver en sixième ? Comment avec habileté et bienveillance leur faire comprendre qu'ils peuvent se retrouver dans un groupe très moyen ou pas, en dessous des résultats attendus ? Comment évaluer les groupes de niveau au niveau de la notation, en fin de compte, parce qu'un groupe à un autre, la notation ne sera pas la même.
Nous, on se pose la question aussi, hein, parce que les élèves n'ont pas les mêmes besoins, selon le gouvernement, donc ils seront placés dans des groupes de besoins, mais on devra quand même leur faire le même programme. Donc, dans le même temps, donné, et effectivement, le fait qu'il y ait des différences de niveau va engendrer forcément des notations qui seront différentes selon les groupes. Et on voit mal comment est-ce qu'on pourra exploiter ces données pour faire passer un élève d'un groupe à un autre. Donc ce qui renforce en fait l'assignation au départ, comme vous dites, dès 10-11 ans, en gros, l'élève qui sera dans un groupe considéré comme un groupe d'élèves faibles aura de grandes chances ou de grands risques de rester dans ce groupe pendant toute sa scolarité. Donc ça c'est une question qu'on pose, et le risque qu'on voit venir aussi, c'est une espèce de standardisation des évaluations qui seront presque commandées par le gouvernement. C'est même plus les enseignants qui vont choisir ce qu'ils évaluent, on va nous dire tel jour, telle heure, vous faites exactement ça, tout le monde aura le même barème, tout le monde aura les mêmes questions. Donc c'est un peu un déni de la liberté pédagogique des enseignants. Si jamais une partie du programme n'aura pas été traitée de la même façon en tenant compte effectivement du public qu'on a face à nous, et ben en fait ils en auront un petit peu rien à faire. Et puis cette obsession de l'évaluation, on sait bien que c'est très très anxiogène pour les élèves, donc déjà stigmatisés par rapport aux autres, avec des problématiques peut-être de harcèlement entre élèves qu'on voit de plus en plus se développer ces dernières années. Et chaque semaine, ce sera le même rituel. Donc on va nous refaire une évaluation. Ça va remettre en difficulté, remettre en échec un enfant. Je vois pas comment dans ce contexte on peut rétablir un peu la confiance. On nous parlait d'école de la confiance il y a quelques années. C'est certainement pas avec ces groupes de niveau qu'on va l'atteindre.
Johan, tu as quelque chose à rajouter ?
Non, ben, je rejoins totalement ce qui est dit. Hein. Effectivement, par rapport à ces groupes de niveau, effectivement, ça risque clairement de à la fois de démotiver et de stigmatiser certains élèves, ce qui de toute façon pose un très gros problème. Concernant, vous évoquiez effectivement les notations, c'est pareil, c'est un grand mystère. Ce qui est bien, c'est que en hauteur, dans ce qui est proposé de manière générale, c'est des grandes idées, mais la mise en application, généralement sur le terrain, on se rend compte que c'est bien souvent inapplicable.
Mais je voudrais poser une question, est-ce que le CM2 ne devrait pas être une sorte de, disons, niveau pour passer en 6e ?
Une passerelle ?
Qu'une personne, un élève de CM2 qui n'aurait pas atteint, le minimum de niveau puisse passer en 6e, puisque dès lors qu'il arrive en 6e, il est encore un peu plus perdu.
Johan, vas-y.
Oui, par rapport à l'action des redoublements, cette question elle est intéressante, alors, parce que il me semble que on va l'évoquer peut-être après.
Oui, on l'évoque après, effectivement.
Oui, donc du coup je disais par rapport au redoublement, en fait le véritable problème, alors c'est Gabriel Attal qui se targuait de remettre en place le redoublement dans les collèges, les lycées et à l'école. Enfin, simplement ce redoublement, moi j'ai le souvenir d'avoir eu il y a quelques années en Seine-et-Marne, lorsque je travaillais en Seine-et-Marne, des parents qui voulaient faire redoubler leurs enfants. J'étais prof principal de la classe à ce moment-là. On a dû se battre légèrement avec le principal pour lui faire admettre que ses enfants avaient besoin de redoubler. Les parents voulaient faire redoubler les enfants. Nous, on trouvait que ça avait un sens parce que les deux enfants concernés manquaient à l'époque de maturité. Sauf que le redoublement, on nous a dit « Ah ben non, ça coûte cher, on ne les fera pas redoubler ». Donc il y a un double discours aussi par rapport à ces redoublements. Et bien souvent, il y a aussi l'idée de faire passer les enfants pour, entre guillemets, s'en débarrasser le plus vite possible.
Sophie, très rapidement, parce qu'on fait signe qu'il faut aller plus vite.
Sur la question du redoublement.
Non, on en parlera après. Pour l'élaboration des groupes, le ministère prépare une évaluation des compétences dès la rentrée pour les classes de 6e, 5e, et peut-être la mise en place d'une consultation auprès des enseignants de CM2. Comment tu perçois ça, toi ? Vous allez vivre ça ?
Là, d'ores et déjà, les personnels qui exercent sur le cycle 3, en particulier le CM2, ont été sollicités au niveau des conseils communs école-collège pour penser. Alors, j'apprends qu'il va peut-être y avoir une évaluation proposée par le ministère, mais en tout cas, il y a déjà eu des sollicitations sur le terrain pour que les collègues pensent des outils d'évaluation permettant d'établir les groupes de niveau. Donc, ce qui heurte particulièrement les collègues, parce que bon, ils n'ont pas envie d'entrer dans le tri des élèves, bien évidemment. Et puis, au bout du compte, ce qu'on constate, c'est que même si les collègues vont avoir la volonté de rassurer au maximum les élèves parce qu'on sent qu'il y a quand même un stress qui monte hein, par ailleurs chez les enfants par rapport à cette problématique-là. Ils ne sont pas hermétiques à ce qui se passe et ils ont bien conscience qu'ils risquent d'être enfermés dans des groupes de niveau qui les stigmatisent. Ça génère beaucoup de stress, ça va générer aussi de la concurrence, peut-être du harcèlement. Enfin bon, voilà, il y a une vraie inquiétude, nous, qui se manifeste sur le terrain de la part des collègues bah, qui sont sur les niveaux de fin de scolarité primaire, sur dans quelle mesure ils vont être associés à la constitution de ces groupes. Et en tout cas, ils ne souhaitent a priori pas y participer. Et nous, on les encouragera dans cette voie-là. Okay. Bon, après, on parlera du redoublement.
C'est ça, tout à fait.
Notre thème du jour, les nouveautés du côté de notre ministère de l'Éducation nationale. Pour cela, au studio, nous recevons Sophie Abraham, professeure des écoles et déléguée du syndicat enseignant SFU SNUP IPP, secteur de Crépy-en-Valois. Nabi Douja, professeur de collège et délégué du syndicat enseignant SNEP FSU. Et au téléphone, Johan Vandenbroek, professeur au collège et en lycée. Sylvie.
Bon voilà, comme disait Mylène Farmer, hein, jusque-là tout va bien. On espère que ça va tenir. Hein. Alors, on va parler avec le choc des savoirs, on va parler donc des ULIS, les unités localisées pour l'inclusion scolaire, et les SECPA, sections d'enseignement général et professionnel adaptés, ces classes prioritaires, souvent en petits groupes pour les élèves en difficulté scolaire ou ayant un handicap, subiront-elles aussi des transformations? Parce que là aussi, on peut restreindre les coûts hein, dans le recrutement, par exemple, des AESH et des aides diverses, le soutien personnalisé, plus ciblé en maths et en français, pourrait être suggéré pour les élèves de SECPA. Comment ça va se passer pour ces classes ULIS et SECPA, en fin de compte? Est-ce qu'il va y avoir des transformations? Comment ça va se passer?
Alors, pour l'instant, on n'a pas officiellement de directive de la part du ministère ou du rectorat par rapport à ces classes-là. Il y a quand même un point d'inquiétude dans le décret qui est paru sur les groupes de niveau, hein, parce qu'il est fait référence aux élèves de SECPA qui pourraient être intégrés directement au groupe de niveau, groupe de besoin d'élèves les plus fragiles. Donc nous, ce qu'on redoute, c'est qu'en fait, ils utilisent cette mise en place de groupe de niveau pour supprimer en fait les moyens sur les dispositifs comme les SECPA, les ULIS ou les IME, en disant, bon, bah, vous voyez, les élèves ont tout ce qu'il leur faut dans les groupes de besoin, donc il n'y a pas besoin de structure spécifique. Pour l'instant, on n'a pas plus de chiffres que ça, mais on voit, ce sera le sujet d'une de vos émissions suivantes, hein, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y a eu une fermeture de SECPA pendant des années à Crépy. Elle a réouvert il y a l'année dernière, et la contrepartie c'était de... Ouais, là, cette année, il y a une nouvelle classe. La contrepartie, c'était de ne pas en fermer d'autres. Et en fait, c'était encore une fois un mensonge, puisqu'ils en ont fermé une à Noyon. Donc, voilà, c'est toujours à moyen constant, voire à moyen réduit, qu'on essaye de maintenir ce qui marche, ce dont les élèves ont besoin.
C'est-à-dire que tu veux dire, quand on ouvre une classe de SECPA quelque part, automatiquement, ou pas automatiquement, il y en a une qui se ferme?
En fait, plus ou moins. Il y a en 2016, je crois, ou 2015, quand celle de Crépy a fermé, ils n'en ont pas réouvert une à côté. Ils ont fermé pour faire des économies.
Les enfants de Crépy allaient à Senlis.
Ou si jamais il y avait de la place.
Oui,
voilà. Donc déjà, ils devaient aller loin. Et encore, tous les élèves concernés n'avaient pas cette chance. Là, après un long combat... qui a été menée par la FCPE, représentant des parents d'élèves, et la FSU au niveau départemental. On a réussi à rétablir la réouverture de la SECPA sur le collège La Fontaine, mais la contrepartie, c'était clairement qu'il ne fallait pas que ce soit enlevé à un autre établissement. Et en fait, leur parole n'a pas été tenue, puisque dès l'année suivante, ils ont fermé à Noyon. Il y a quand même derrière, comme vous dites, la direction du paquebot qui se dirige tout droit vers là où il ne faut pas.
Je reviens un peu sur l'école. Je pose une question à Sophie. Le gouvernement veut mettre en place un rapprochement de l'éducation nationale et du secteur médico-social en créant des postes d'assistants à la réussite éducative et des pôles d'appui à la scolarisation dans chaque département. Ces changements devraient permettre un repérage plus rapide du handicap sans passage préalable obligatoire par la MDPH, si j'ai bien compris. Et est-ce que ces changements, vous avez un peu plus d'éléments, est-ce qu'il y a eu une concertation aussi avec les syndicats enseignants et les associations?
Non, alors, je tiens quand même à dire que de manière générale, l'enseignement adapté, donc un enseignement qui doit normalement permettre aux élèves qui sont les plus en difficulté ou ayant des spécificités ou des besoins particuliers, est quand même très mis à mal hein, depuis un certain nombre d'années. Bon, là, il y a une volonté de mettre en extinction ce qu'on appelle les établissements médico-sociaux, qui sont déjà des structures largement insuffisantes aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on retrouve un certain nombre d'élèves en ULIS qui devraient être orientés dans ces établissements-là, et donc des élèves qui auraient besoin de place en ULIS qui se retrouvent dans des classes ordinaires et donc en difficulté d'apprentissage. Donc il y a quand même globalement une politique autour de l'enseignement adapté et aussi de la prise en charge des élèves en situation de handicap qui pose problème. Donc là, en gros, ce que veut mettre en place Macron, c'est ce qu'on appelle un acte 2 de l'école inclusive. L'école inclusive aujourd'hui, elle se fait, comme l'a dit Nabi à propos des SECPA, c'est toujours à moyen constant, voire avec une dégradation des moyens. On voit déjà des collègues qui sont en difficulté sur le terrain pour prendre en charge les élèves en situation de handicap parce qu'il n'y a pas les moyens nécessaires pour encadrer et accompagner ces élèves-là de façon satisfaisante. Là, cet acte 2 de l'école inclusive va encore dégrader, va encore conduire à une dégradation de la situation. En fait, il y a aussi toute une problématique quand même qui est liée au fait qu'aujourd'hui, il y a une confusion justement qui est entretenue entre l'enseignement adapté pour répondre à des difficultés ou à des besoins particuliers au niveau scolaire et le champ du handicap. On a vu ces dernières années une inflation des notifications MDPH, mais qui répondent à des problématiques qui ne relèvent pas forcément du handicap. En gros, comme on a supprimé tous les postes de réseau d'aide et notamment les enseignants spécialisés qui accompagnaient les élèves, notamment tout ce qui concernait la rééducation et l'aide relationnelle, et ben en fait, ces élèves-là qui auraient pu être pris en charge dans le cadre scolaire, les enseignants et enseignantes orientent les parents vers des demandes d'AESH, et on s'est retrouvé avec une inflation des demandes. Donc la réponse que veut apporter le ministère, c'est régler le problème plus rapidement. On sort du champ de compétences de la MDPH qui va notifier et donc derrière avoir besoin de mettre en place les personnes pour accompagner les élèves. Là, on veut accélérer la procédure en mettant en place les pôles d'appui à la scolarité qui vont devenir des plateformes de gestion de ces besoins-là et ça va participer à dégrader à la fois la prise en charge des élèves mais aussi le travail des AESH. Puisqu'aujourd'hui, une AESH, normalement, devrait pouvoir suivre un, voire deux élèves, parce que les notifications en termes de nombre d'heures ne permettent pas d'accompagner une multiplicité d'élèves. Là, avec les pôles d'appui à la scolarité, on aurait une nouvelle dégradation avec des AESH qui se retrouveraient mutualisés sur plusieurs élèves et donc dans différentes écoles. Donc il y a un rejet manifeste hein, à la fois des associations de parents d'élèves, mais aussi des syndicats de cet acte 2 de l'école inclusive, qui va dégrader encore plus une situation qui l'est déjà bien suffisamment.
Et donc ça, faudra revoir, suivre cette affaire.
Oui, il faudrait plus tard. Consacrer voilà. un temps plus important, mais là, c'est compliqué d'entrer dans les détails.
Tout à fait. Moi, j'avais une petite question. On peut parler donc de la fin du collège unique hein, et de sa mixité sociale, quelque part. Et des parents qui n'ont... Alors oui, c'est ça que je voulais parler aussi, c'était du redoublement. On avait dit qu'on reviendrait sur cette problématique. Alors, des parents qui n'auront plus le dernier mot sur un redoublement. L'obtention du diplôme national du brevet qui ouvrira les portes vers un lycée. Et on remarque dans ces nouvelles dispositions une rigueur plus confirmée du côté du gouvernement. Est-ce que ces changements profiteront à la qualité de l'enseignement et à la réussite de nos jeunes? Je pense qu'on y a déjà répondu. Et les portes des lycées seront-elles moins accessibles pour certains élèves? Johan, peut-être
Par rapport à ça, le redoublement, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je pense que voilà, ce redoublement, encore une fois sur le terrain, il faudra voir comment ça sera mis en place, puisque nous, pour des raisons principalement économiques, c'est pas tant des raisons pédagogiques qui poussent au non-redoublement des élèves que des raisons économiques. Si on peut effectivement instituer des redoublements efficaces avec un bien sûr, quelque chose de positif pour l'élève, ce sera intéressant. Maintenant, à voir si ce sera le cas ou si on va encore nous redire « Ah non, il ne faut pas qu'il redouble, il faut faire passer » puisque c'était quand même la tendance pendant très longtemps. Donc si on peut de nouveau avoir des redoublements en accord avec les parents aussi et puis en accord pour le bien-être de l'élève, ça peut être une bonne chose. À voir maintenant concrètement ce qui va se passer.
Alors justement, là-dessus, je te coupe, mais il y a eu un décret qui est sorti donc le 16 mars 2024, justement relatif à la mise en place pour l'année prochaine, année scolaire, d'une phase pilote de l'instauration d'un cycle préparatoire à la classe de seconde. Alors rappelons que les élèves n'ayant pas obtenu le brevet auront la possibilité de rejoindre ce dispositif si c'est leur choix. Combien de classes préparatoires en prévision dans chaque département à titre expérimental? A priori, il n'y en a pas beaucoup. Et est-ce que le programme des classes préparatoires, je vais y arriver, sera-t-il plus axé sur les sciences, la littérature, l'art, qui sont actuellement des options? Est-ce que toi, déjà, tu as quelques renseignements à nous donner là-dessus, Johan? Ou pas du tout?
J'ai aucun élément dessus. Alors, j'ai pas de seconde non plus, mais j'ai aucun retour, retour là-dessus. Donc, peut-être que les collègues en auront plus. Moi, j'ai pas de retour. J'ai des 6e et des 5e et des terminales cette année. Donc, j'ai pas de retour par rapport à ça, par rapport aux classes de 3e et par rapport à la passerelle éventuelle entre la 3e et la 2e.
D'accord. Parce qu'a priori, s'il y a seulement une classe par département, ça va pas être facile. Hein.
Oui, bah, c'est exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. Hein. En termes de moyens, pour l'instant, ils ont attribué une classe par département. Donc nous, par exemple, dans notre département, il y a 66 collèges publics. Rien que s'il y a un élève par collège qui souhaite y accéder, ça ferait une classe de 66 élèves, ce qui est délirant. Donc on dit que ce sera possible pour les élèves de le demander, mais encore une fois, on va leur dire il n'y a plus de place, donc c'est pas possible. S'il y en a une par département, il y a des départements plus ou moins vastes pour l'élève qui est dans un milieu rural où il faudra qu'il soit transporté pour aller dans cet établissement, ça va être un petit peu compliqué aussi. Après, en termes de programme, on nous a dit que ce ne sera pas une troisième, parce que si c'est le programme de troisième, autant qu'ils redoublent. Ce ne sera pas une seconde, le programme d'une seconde, parce que si c'est le programme d'une seconde, autant qu'ils aillent en seconde. Donc ce sera un programme intermédiaire, mais on n'a pas encore les contours. Donc je ne peux pas en dire plus par rapport à ça non plus.
On vous réinvitera alors pour une autre émission.
Avec plaisir.
tu voulais dire quelque chose, toi, Sophie?
Moi, je voulais intervenir quand même sur la question du redoublement, parce que c'est quand même un marronnier qui revient régulièrement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la recherche en pédagogie a démontré que le redoublement n'avait pas l'efficacité la plupart du temps escomptée. Hein. Il y a quand même des effets sur les élèves qui sont particulièrement délétères. Sur la question de l'estime de soi, sur la question de la motivation, de la confiance, et c'est quand même un facteur assez discriminant en termes de trajectoire scolaire. Donc je pense qu'il faut être aussi prudent sur ce qu'on peut dire de l'efficacité en tant que telle du dispositif du redoublement. Aujourd'hui, si on mettait en place tout ce qu'il fallait en amont pour éviter que les enfants en difficulté scolaire s'enlisent dans leurs difficultés, probablement que le dispositif de redoublement n'aurait pas nécessité d'exister. Et les systèmes éducatifs les plus performants à l'échelle internationale sont quand même ceux qui ne font pas la promotion du redoublement comme étant une possibilité de faire réussir les élèves. Donc moi, j'ai vraiment un questionnement sur le redoublement en tant que tel.
D'accord.
Tout à l'heure, moi, je parlais pas de redoublement dans toutes les classes, je parlais uniquement du CM2. C'est-à-dire juste faire un petit barrage pour le passage en sixième. Parce que moi, je vais quand même dans des collèges avec Énergie Jeune et où je m'aperçois quand même qu'en sixième, il y a certains élèves qui n'ont pas du tout le niveau acquis qu'ils devraient avoir en fin de CM2.
Je pense que c'est pour ça que le gouvernement propose les groupes de niveau ou de besoin.
C'est pour ça qu'on dit que nous, il faut qu'on puisse prendre en charge à l'échelle du primaire les difficultés scolaires des élèves avec les moyens qu'il faut. Donc nous, on promeut la réintroduction des postes de réseau d'aide, mais aussi des postes de plus de mètres que de classe qui permettent de travailler autrement et de prendre en charge correctement les élèves pour éviter qu'ils s'enlisent dans leurs difficultés. Parce que le redoublement en fin de CM2 ne va pas forcément régler la problématique des difficultés scolaires de ces élèves.
Alors moi, je voulais juste rajouter, quand j'étais en CM2, je n'étais pas une élève très rapide, hein, j'étais plutôt très lente. Et je me souviens d'une chose, et ça m'a toujours marqué. Moi, la maîtresse de l'époque avait dit à ma mère, je ne ferai pas redoubler Sylvie au niveau du CM2. Je la laisse passer en sixième, et parce que c'est un gros changement. Et en sixième, bon, elle redoublera certainement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc déjà à l'époque, hein, je ne suis plus toute jeune, déjà on disait qu'un redoublement en CM2 ne servait à rien.
Moi, je reviens un petit peu sur le redoublement. Nous, ce qu'on pense, c'est que si on fait redoubler un élève dans les mêmes conditions qui l'ont amené, entre guillemets, à l'échec, ce sera un deuxième échec assuré. On ne pense pas que l'élève redouble parce qu'il est faible. On pense qu'il redouble parce que les conditions d'apprentissage qu'il a eues ne lui ont pas permis d'acquérir tout ce qu'il avait besoin d'acquérir. Donc, à partir du moment où, effectivement, on ne mettra pas en place, comme disait ma camarade Sophie, les moyens nécessaires pour accompagner les élèves qui rencontrent des difficultés. À partir du moment où on continuera à être le pays d'Europe où il y a le nombre d'élèves par classe le plus chargé de tous les pays d'Europe en primaire, le nombre d'élèves par classe le plus chargé de tous les pays d'Europe en collège, on sera confronté effectivement à des élèves qui n'auront pas les conditions pour réussir, et on pourra les laisser autant d'années qu'on veut dans une classe, ça ne changera pas le résultat final, qui n'auront pas toutes les compétences acquises parce que les conditions sont mauvaises, pas parce que l'élève n'a pas fait ce qu'il fallait, ou pour le punir, on va lui faire recommencer une année, ou pour le punir, on va lui enlever un mois de vacances en août pour qu'il vienne un mois avant les autres rattraper le soi-disant retard qu'il a acquis. C'est pas aux enfants de payer toutes les carences du système éducatif et le manque de moyens qu'ils mettent pour que tous les enfants aient une chance de réussir.
Et tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'au niveau des groupes de niveau, ils auront tous le même programme, dans un même temps. Moi, je pensais que les groupes de niveau, effectivement, c'était pour aider vraiment les élèves qui en avaient besoin, et que les programmes, pour ceux qui sont plus en difficulté, seraient peut-être moins chargés. Et là, pas du tout, en fin de compte.
Non. Le programme restera le même, et ils sont obligés d'afficher cette contre-vérité, puisqu'en fait ce ne sera pas le cas sur le terrain. Ils sont obligés d'afficher ça parce qu'ils prétendent que les élèves vont changer de groupe. Donc on ne peut pas dire « vous ne faites pas le même programme, mais vous allez changer de groupe la semaine prochaine ». C'est impossible. Donc ils prétendent qu'on va faire la même chose et que les élèves en difficulté y arriveront juste parce qu'ils sont un peu moins dans la classe, mais qu'il n'y a rien d'autre qui est mis en place. Quoi.
Jackie, ton petit billet d'humeur ? Il est comment aujourd'hui ?
Ouf. Oui, ouf. Cette rentrée scolaire 2023-2024 a été bousculée par plusieurs changements à la tête de cette institution. Donc, Gabriel Attal, Amélie Oueda-Castera, Nicole Belloubet, qui est vraiment à la tête de cette institution ? On se le demande. D'autant que...
On ne donne pas de nom.
Non. Voilà, justement, je me demande qui est vraiment à la tête de cette institution ? Donc, et d'autant que chaque ministre a fait tout un tas d'annonces quand ils étaient en poste, au fur et à mesure. Donc, groupe de niveau, choc des savoirs, création bientôt d'une force mobile de sécurité, qui a des questions à se poser dessus. Donc, on a l'impression de mettre régulièrement des pansements sur une jambe malade. Et le constat est toujours, toujours là. Pour les enseignants, moi je me demande, c'est toujours le même constat, reconnaissance, où elle est. Le manque de sérénité, parce que là on le voit toujours, nous en étant régulièrement dans les écoles, on le voit. C'est vraiment dans la pression, enfin dans tout, c'est dans le stress, dans la pression.
Tout vite.
C'est les objectifs aussi, parce que là, comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas très bien où ils veulent aller, dans quel objectif, et puis un visuel aussi. Et pour les élèves, malgré tout cela, on voit très bien, malheureusement, on ne voit pas le bout, mais surtout aussi sur les problématiques des niveaux qui risquent d'avoir.
Moi, j'aimerais revenir sur une chose que j'ai laissé passer tout à l'heure. Madame Belloubet annonce les changements avec plus de diplomatie que Monsieur Attal. Elle parle de groupes interclasses ou encore d'hétérogénéité, je l'ai mal dit, restreinte. Mettre en place un tel dispositif sans moyens supplémentaires ou avec moins de moyens qu'auparavant, on gère tout ceci de quelle manière ? Et avez-vous déjà des éléments sur la dotation horaire globale destinée aux enseignements obligatoires et facultatifs ? Sachant que peut-être que l'avenir des enseignements facultatifs vont disparaître sans doute dans cette DGH, dotation horaire globale ?
Pour nous, dans le département... On a, en fait, pour faire simple, puisqu'on est un petit peu à la bourre, les dotations horaires globales, elles sont composées de deux parties. Une partie sur l'enseignement minimal obligatoire dans toutes les matières et une partie dite de marge d'autonomie des établissements qui l'utilisent pour faire des groupes d'accompagnement personnalisé, des groupes de sciences expérimentales, etc. La partie obligatoire, elle n'a pas changé puisque le volume horaire n'a pas changé. Par contre, la marge d'autonomie qui avant permettait de faire tous les projets, elle a été divisée en deux. La moitié pour mettre en place les groupes de français 6e, 5e, et l'autre moitié pour faire tout ce qui était fait avant. Donc évidemment que si on nous demande de faire pareil qu'avant avec la moitié des moyens, bah, ça passe pas. Donc nous, dans les établissements de Crépy, on est obligé de sacrifier des groupes de sciences. Donc voilà, soit on laisse des élèves disséquer un cœur en SVT avec 30 scalpels qui se baladent dans la classe et les risques pour la sécurité des élèves, soit bah, en fait ils pratiquent pas. Donc ils regardent le prof faire, et pendant des années, leur apprentissage des sciences expérimentales est réduit. Donc ça, c'est quand même assez massif dans tous les établissements. Les moyens qui sont mis soi-disant en place pour les profs de français et mathématiques, on vient d'apprendre il y a deux jours, avec une lettre adressée au recteur, qu'en réalité, il n'y aurait pas les professeurs de mathématiques et de français suffisants, donc ils vont faire appel massivement à trois viviers, le vivier des professeurs des écoles qui bénéficieront d'une campagne de détachement au mois d'avril, le vivier des professeurs retraités qui n'ont pas encore subi la réforme des 67 ans, donc on va rappeler de leur retraite récente pour continuer jusqu'à 67 ou 68 ou 69, et puis le vivier des professeurs contractuels à qui on peut faire n'importe quel type de contrat, qui bafoue tous les statuts de la fonction publique.
Peut-être aussi le vivier des enseignants qui vont se retrouver peut-être sans classe, parce qu'il y a beaucoup de fermetures de classes, hein, je vois dans l'Oise, je ne sais plus combien on en avait compté,
pour l'instant
56
dans les écoles primaires.
Les écoles primaires. Donc, est-ce qu'ils vont faire appel à ce vivier-là, en fin de compte?
Je ne sais pas à quoi ils vont faire appel. Nous, on a vu passer une circulaire spécifique à l'Académie d'Amiens, hein, sur laquelle on a alerté quand même le recteur. C'est une espèce de petit formulaire où il y a trois petites cases à cocher pour transformer un prof de physique SVT ou techno en prof de maths. Voilà, donc une petite croix à cocher par l'inspecteur de la discipline d'origine, une petite croix à cocher par l'inspecteur de la discipline d'arrivée, une petite croix à cocher par le chef d'établissement, et hop, le prof qui voulait faire des sciences physiques, ben non, lui il fera des maths. Donc pour attirer les candidats au concours, c'est pas terrible. Pour la qualité de l'enseignement, des savoirs, comme ils disent, fondamentaux sur lesquels ils veulent axer leur réforme, bah, par un prof qui n'a pas été formé pour, qui est certainement très compétent dans sa matière d'origine, bah, il pourra peut-être pas faire des maths aussi efficacement qu'un prof qui est formé pour. Mais c'est la réponse qui a été donnée par le ministère et par, en tout cas, l'Académie d'Amiens. Donc vous voyez un petit peu l'état de la dégradation des moyens qui nous est accordé pour faire notre mission. Ça laisse quand même perplexe.
En plus, le budget de l'éducation nationale a encore baissé cette année. Sophie, tu voulais dire quelque chose et après on passera à Johan.
Non, juste sur ce point-là, j'ai lu ce matin dans le café pédagogique que le ministère envisage le recours aussi aux profs des écoles pour assurer l'enseignement de certaines disciplines aux sixièmes, enfin en l'occurrence les disciplines fondamentales, aux élèves de sixième et cinquième, avec des possibilités de détachement entre le premier et le second degré. Alors je tiens quand même à rectifier le fait que les professeurs des écoles qui voient leur poste supprimé à la carte scolaire ne sont pas sans élèves à la rentrée.
Ah d'accord.
Faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même un déficit structurel de candidats et de candidates au concours de profs des écoles, et qu'on n'a pas pléthore de profs des écoles devant les élèves. On en a même manqué à la rentrée dernière. On avait plus de 3000 postes qui manquaient devant les élèves à la rentrée 2023. Donc cette situation, elle va se retrouver encore à la rentrée 2024. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'élèves à prendre en charge qu'ils vont se retrouver. Par contre, cette espèce de confusion qu'on est en train d'installer et de dérive entre les profs du premier degré, second degré, puisqu'on a déjà des profs du premier degré qui interviennent pour faire du soutien dans les disciplines fondamentales à travers le pacte cette année, la possibilité de détachement pour aller assurer des enseignements au collège l'année prochaine, ça nous inquiète fortement. C'est quand même une volonté qu'on sent poindre de remettre en cause le statut de professeur, de confondre le rôle et les missions des contrats actuels et des postes des collègues qui sont fonctionnaires titulaires. Donc c'est une vraie dérive qui est en train de s'installer et qui nous inquiète fortement.
Johan, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, bah alors du coup, totalement d'accord sur les volontés aussi en hauteur de contractualiser de plus en plus la profession. Ça c'est une volonté qui vient d'en haut. Effectivement, leur objectif c'est de contractualiser au maximum, effectivement, dans des conditions de travail extrêmement, extrêmement difficiles, avec des salaires extrêmement bas, donc les collègues contractuels, et puis en avoir recours de plus en plus, et y avoir, avoir recours à des contractuels de plus en plus fortement. Et puis par rapport à la DSG, alors là, j'ai peut-être plus de vues par rapport au lycée, mais nous, ça fait des années, ça fait 6 ans que j'enseigne dans le même lycée. Ça fait 6 ans que la DSG est en baisse, et par rapport à tout ce qui est option, en fait, c'est très simple. On fait en sorte de supprimer, de renier au fur et à mesure les options. Donc, les élèves au lycée, on leur vend tout un tas d'options, sauf que de plus en plus, les options, elles sont restreintes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux lycées qui font une option, je parle une option art ou l'option musique, alors c'est les options les plus rares, mais. Il n'y en aura qu'un, et puis parfois le seul lycée qui fait l'option art, par exemple, se trouve à une cinquantaine de kilomètres. Donc on raréfie de plus en plus les options. C'est aussi le cas pour les langues, hein. Il y a des collègues de langue. Nous, on n'a pas de collègues d'italien, par exemple. On en avait avant, on n'en a plus. Donc du coup, les élèves ont des cours avec le CNED et c'est de plus en plus compliqué. On se trouve avec des élèves qui ne peuvent pas avoir plusieurs options, ne peuvent pas même avoir l'option qu'ils voulaient au sein du lycée. Donc on se trouve avec ces problématiques-là, avec une DAG qui est constamment en baisse, de manière générale, pour ce qui est en tout cas de mon lycée.
D'accord. Le gouvernement parle aussi de labellisation des manuels, pas Macron, hein, des manuels scolaires, hein, qui va permettre d'évaluer et de choisir les certificateurs à partir d'un cahier des charges techniques et remettre le label ministériel. Les enseignants, jusqu'à présent, choisissaient leur support. Est-ce que justement, vous allez toujours avoir ce choix ou est-ce que vous aurez moins de liberté ? Sophie, tu veux répondre ?
Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'actuellement, déjà, on a des marges de manœuvre qui se réduisent de plus en plus et que la labellisation va permettre de franchir un cap supplémentaire, là où d'ores et déjà, il y a des contraintes qui pèsent lourdement sur les collègues. En fait, l'instauration, sous ça on n'en a pas parlé, hein, mais la généralisation des évaluations nationales a quand même porté un coup sévère à la liberté pédagogique des enseignants et des enseignantes dans le premier degré, puisque depuis l'instauration de ces évaluations nationales, le ministère impose de plus en plus de pratiques normées au personnel du premier degré. Donc on a vu un certain nombre de guides être publiés, fortement incités en termes d'utilisation dans les classes. Donc d'ores et déjà, la liberté pédagogique des enseignantes dans le premier degré a quand même été largement réduite au fil du temps. Là, avec la labellisation des manuels, on va franchir un cap supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va imposer des méthodes et des manuels aux collègues et donc normaliser les pratiques, rendre les possibilités d'autonomie dans le travail de plus en plus limitées, ce qui conduit quand même à une forme de malaise enseignant, c'est-à-dire que aujourd'hui on est des enseignants concepteurs des apprentissages de nos élèves, demain on va nous demander d'être de simples exécutants, exécutantes. On va devoir mettre en place des méthodes qui seront avalisées par le ministère et par un nombre très réduit de chercheurs et chercheuses en pédagogie sur des idées quand même très orientées sur la manière d'apprendre.
Alors on va faire très rapide parce qu'on me dit qu'il ne reste plus que 5 minutes. 3 ministres successifs au ministère de l'Éducation nationale. Ceci démontre-t-il une instabilité ministérielle qui pourrait nuire aux jeunes les plus démunis ? Y a-t-il une crise plus profonde ? Je crois qu'on y a plus ou moins répondu. En 2016, Madame Belloubet a écrit un article « Supprimer le ministère de l'Éducation nationale ». À l'évidence, il s'agit d'une provocation, mais une provocation source de réflexion. Ce sont ses mots, ses écrits plutôt. Elle a écrit ceci donc dans la revue Après-demain, qui est un journal trimestriel de documentation politique. Quelles sont vos réactions en écoutant cette phrase, Naïb ?
La phrase peut paraître un petit peu choquante comme ça. Quand on regarde un petit peu l'article dans le détail, il n'était pas vraiment question de supprimer le ministère de l'Éducation nationale ou de supprimer l'Éducation nationale, mais plutôt de décentraliser le ministère. Parce que c'est vrai que, comme vient de dire ma collègue, on essaye de nous imposer des méthodes qui viennent toujours d'en haut, sans tenir compte de la réalité locale. Et du coup, cette possibilité, cette marge d'autonomie qui est donnée aux établissements, d'un côté, elle est positive. Le point négatif, nous, qu'on pointe, c'est en fait les différentes strates qu'il y a entre le ministère, les rectorats, les directions départementales des services de l'éducation nationale, les établissements, les équipes. Au bout d'un moment, effectivement, les interlocuteurs sont tellement nombreux, les messages peuvent être un petit peu contradictoires, ça met du flou dans les équipes, dans les pratiques, et avoir de temps en temps des directives claires par l'autorité supérieure du ministère ne nous semble pas être une mauvaise chose.
Elle écrivait, j'ai retenu cette phrase, hein, « À l'évidence, les systèmes éducatifs, s'ils restent les garants d'un contrat de l'État avec chaque citoyen, ne peuvent plus gérer de façon pyramidale la variété des situations existantes pour donner aux jeunes la confiance et les moyens de bâtir l'avenir dans une société de plus en plus mondialisée et largement imprévisible. » Elle disait aussi « La formation professionnelle des enseignants est l'unique moyen pour donner envie aux enseignants d'exprimer un acte créatif, la haute idée qu'ils se font de leur mission en mettant fin à l'évaluation actuelle qui génère infantilisation et passivité. » Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces phrases ?
Non, mais je crois que ce qu'elle a dit en 2016, c'est une volonté politique d'aller vers une territorialisation de l'école. Quand on parle de décentralisation, ça veut dire que l'État veut se délester d'une de ses obligations pour aller la reporter sur des collectivités. Donc c'est un transfert de charges à un moment donné de l'État vers les collectivités. Et puis bah, ça, c'est générateur d'inégalités. On le voit, hein, y a une territorialisation rampante de l'école depuis un certain nombre d'années. Le fait que ce soit de la compétence de l'État, ça oblige l'État déjà à mettre un cadre national et à permettre, à donner les moyens à toutes et tous de réussir. Si on allait vers une territorialisation et une décentralisation complète des compétences qui concernent l'éducation nationale, ça serait catastrophique sur le terrain. C'est-à-dire qu'on aurait des établissements en concurrence, des départements en concurrence. On voit déjà des inégalités territoriales. La décentralisation, c'est absolument une très mauvaise solution. Là où nous, on porte une ambition, c'est la possibilité de permettre à tout le monde de réussir avec un cadre national qui s'impose à toutes et tous. Donc c'est évidemment une provocation, mais quelque part, c'est aussi une forme de réalisation, aujourd'hui. Hein.
Johan, tu veux réagir ?
Oui, bah, effectivement, ce que vient de dire la collègue à l'instant, c'est inquiétant, cette petite phrase de 2016 est inquiétante. Et effectivement, on prend quelque part le chemin d'une concurrence accrue entre les établissements, entre les départements, entre les régions, enfin, du moins, entre les territoires. Et puis, entre établissements, c'est une concurrence qu'on voit déjà au lycée, hein, Parcoursup, à l'arrivée à Parcoursup, on sait que ça se fait en sortie de terminale. Plus ou moins, c'est de dire bah tiens, un tel vient de tel établissement, un tel vient de tel établissement, on va publier un tel parce que il vient d'un établissement plus UP. Hein. Je l'ai vécu lorsque j'enseignais donc dans un grand lycée donc de ma région, et effectivement ça allait très bien pour les élèves. Les élèves avaient ce qu'ils voulaient, peu importe les résultats donc à l'intérieur de la classe. En revanche, là où je suis actuellement, le lycée n'est pas forcément extrêmement, enfin pas mal fermé, mais il n'est pas forcément très bien vu, la ville n'est pas forcément très bien vue, et derrière on va pouvoir avoir des élèves qui ont plus de difficultés à être orientés. Donc clairement, c'est la porte ouverte à davantage d'inégalités, alors que l'école aurait quand même vocation à gommer ces inégalités et à donner l'égalité des chances aux enfants.
Mot de la fin.
En deux mots. Une part de territorialisation, oui, une décentralisation totale, non.
Parfait, on finira là-dessus.
Eh bien, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Sophie, Nabi et Johan d'avoir participé à cette émission qui sera diffusée pendant le mois d'avril, le vendredi 5 à 19h, le lundi 8 à 16h30, le samedi 20 à 17h et le mercredi 24 à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera chouette, ouverture d'une classe de SECPA à Crépy-en-Valois. Merci à Luc à la technique, Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6-valois-6-bulcien.fr. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie. C'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un Brand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après.